Et donc, sans plus attendre, je vous remercie d'accueillir chaleureusement Laura Magro.
Bonjour à toutes et à tous. Je me suis permis de garder mon petit papier pour la confiance, mais je vais essayer de vous parler. Très bien, c'est plus au centre. Je suis vraiment ravie et honorée de venir contribuer à cet événement qui est si important, donc ce que j'ai compris pour l'IGN et sa grande transformation. Ce que je comprends dans la mission de l'IGN, c'est un objectif de cartographie. Cartographier quoi ? Notre habitat. L'habitat au sens l'habitat d'espèce, de notre espèce, Homo sapiens. Et ce qu'il a de particulier, notre habitat, c'est que nous le partageons. En quelque sorte, nous sommes en colocation avec quelques 10 millions d'espèces actuellement recensées sur la planète. On est tous sur cette fine couche à la surface du globe, à l'interface entre air, terre et mer. Alors ce foisonnement de vie, il s'incarne dans une diversité d'écosystèmes, d'espèces et d'individus, un peu à toutes les échelles et sur toute la surface du globe, dans tous les milieux. Tout ce vivant, on en fait partie, évidemment, mais il est aussi essentiel à notre existence, à notre survie. Alors la manière de le comprendre, c'est notamment par le formalisme des services écosystémiques, la description de ces fonctions support qui permettent de décrire de quelle manière est-ce que le vivant contribue à la régulation des fonctions des cycles de carbone, du cycle de l'eau, du cycle de l'azote, de la pollinisation, encore de fonctions support pour l'accueil de nos activités, de fonctions d'approvisionnement en ressources nutritives, en ressources pharmaceutiques, mais également de bienfaits socioculturels pour notre bien-être, pour peut-être la spiritualité, pour nos loisirs. Et par cette dimension service écosystémique, on voit qu'on a apporté sur le vivant un regard fonctionnel. Finalement, à quel service, quelle fonction tout ce vivant peut-il contribuer ? Alors, à travers notre rapport à la nature, on a pu avoir une nature un petit peu mise sur un piédestal, préservée, adulée. Une nature qu'on peut craindre parce que finalement il y a des dangers desquels il faut s'affranchir et répondre. Il y a une nature qu'on a su peut-être maîtriser par la technologie. Et aujourd'hui, par cet angle de la fonctionnalité et du biomimétisme, on se dit qu'il y a encore une dimension à appréhender dans notre relation à la nature parce qu'elle peut être riche d'enseignements et d'informations à notre service, au service de notre développement. À travers en fait, son histoire évolutive, la vie sur Terre elle a colonisé tous les milieux. Elle a déjà traversé des bouleversements climatiques et traversé de nombreuses périodes. Et les espèces qu'on voit aujourd'hui, elles sont bien le fruit de cette évolution, donc de 3,8 milliards d'années d'évolution, 3,8 milliards d'années pendant lesquelles le vivant a déployé des innovations qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, des essais, des erreurs, et la sélection naturelle qui a permis de filtrer la solution la plus optimisée, la plus viable, qui fonctionne en fonction des contraintes données. Ce n'est pas forcément la meilleure de tous les temps pour tout le temps, c'est la meilleure dans un contexte donné. Et pour l'ingénieur que je suis de formation, ben c'est un grand laboratoire de recherche et développement à ciel ouvert, un vivier de modèles qui sont résilients, tant pour l'adaptation, la sobriété et donc la durabilité. L'ensemble du vivant gère au quotidien des enjeux de gestion de l'énergie, de gestion de l'eau, d'une gestion efficiente dans le partage de l'information, des enjeux de mobilité, des enjeux également dans la fabrication de matériaux. Alors tout ça, cela fait évidemment écho à nos enjeux actuels, mais au-delà du parallèle ou de la métaphore, dans l'approche du biomimétisme, on pense qu'il y a très très concrètement des mécanismes et des stratégies qu'on peut trouver dans l'observation de ces systèmes biologiques et chercher à transposer dans nos développements humains, nos développements techniques, industriels et la manière dont on s'organise. Alors, à l'IGN, depuis quelques années, il y a un domaine de spécialité qui est la forêt. Et ce que je vous propose, c'est de regarder une forêt par cet angle du biomimétisme. Alors moi, quand je regarde une forêt, j'y vois des arbres capables de s'élever du sol jusqu'à quelques 100-120 mètres de hauteur. Ben, ça, c'est un défi pour l'architecte. J'y vois aussi des arbres qui sont capables de propulser leur sève du sol jusqu'à ces hauteurs. En mécanique des fluides, c'est aussi un défi. Je vois des arbres dont le bois va présenter le compromis inégalé entre légèreté et résistance mécanique. Ça, pareil, en sciences des matériaux, c'est un bon défi d'avoir des structures très légères, mais en même temps très résistantes. Si je regarde d'un peu plus près dans cette forêt, je peux y voir des grillons, dont les cerques, un peu l'équivalent des antennes, sont des capteurs de flux extrêmement sensibles, sensibles au flux d'air. Un flux d'air dont l'énergie est de l'ordre de quelques photons, la particule de lumière. Et pourquoi il est extrêmement sensible? C'est que le grillon a besoin de sentir la présence de son prédateur arrivé, l'araignée, et de pouvoir s'enfuir à temps. Donc on a des capteurs miniaturisés très sensibles. Je peux également y voir des papillons, dont les antennes vont détecter la présence de partenaires dans un rayon de 10 km. J'y vois également des coléoptères qui sont capables, par le rayonnement infrarouge et par les molécules issues de la combustion, de détecter des feux de forêt, des incendies, dans un rayon de 100 km. Si je regarde encore sous un autre aspect, j'y vois sous l'angle des matériaux, du lierre, qui est capable d'avoir une fonctionnalité d'adhésion, de colle sur tout type de substrat, de manière extrêmement puissante. J'y vois des toiles d'araignée, dont la soie rivalise avec l'acier ou le kevlar en termes de performance mécanique. J'y vois des ailes de coccinelle qui sont capables de se plier et de se déplier et d'offrir le compromis d'être à la fois compactes et déformables ou au contraire très stables pour permettre le vol. Donc le vivant, quand je le décris de cette manière, moi j'y vois à la fois tous les attributs pour être high-tech, très sophistiqué, avec un haut niveau de performance technique, mais aussi toute l'élégance du low-tech, de solutions qui s'inscrivent dans une démarche extrêmement frugale, résolument dans un management très raisonné de l'utilisation des ressources qui sont disponibles. Donc on a souvent cette adéquation entre la performance technique singulière d'un organisme donné avec le contexte dans lequel il s'inscrit. Et pour tout ça, on parle de principe du vivant. C'est un peu ce cahier des charges. De quelle manière est-ce que le vivant a le droit d'innover et de créer. Donc l'idée, c'est que ce principe du vivant, ce cahier des charges, c'est un peu les règles à respecter pour une espèce, pour s'inscrire dans la durée et perdurer. Évidemment, on a aujourd'hui, en tant qu'espèce humaine, le même cahier des charges qui s'applique à nous et les mêmes frontières avec lesquelles on a joué, vers lesquelles il faut, au contraire, faire peut-être machine arrière. Et dans ce cahier des charges, dans ces grands principes du vivant, on retrouve l'idée d'avoir une grande sobriété énergétique, d'utiliser des stratégies d'optimisation, de préférer les ressources qui vont être locales et abondantes, de ne pas générer de pollution ou de toxicité à long terme. Donc voilà, donc on a ce management de la ressource dans le vivant qui doit être un très riche d'enseignements. L'une des ressources précieuses pour l'hygiène, si j'ai bien compris, c'est aussi la donnée. C'est cette donnée numérique qui vous permet d'embrasser dans une globalité un ensemble de problématiques complexes. Et ça, pour le vivant, c'est aussi un élément clé. Finalement, toute espèce, tout individu doit en permanence recevoir une quantité d'informations de la part de l'ensemble de ses capteurs sensoriels afin de percevoir au mieux son environnement, là, maintenant, mais aussi dans ses évolutions, et d'en faire la synthèse, une synthèse éclairée pour prendre au mieux la bonne décision, éclairer, aiguiller, orienter ses prises de décision. Et donc, si je refais cet exercice de regarder cette question de la gestion de la donnée par l'angle du biomimétisme et du vivant, ben, je peux retrouver aussi un peu des enseignements à avoir à différentes échelles. Donc, pour cette gestion de la donnée, je peux penser au modèle de l'ADN. Donc, l'ADN, c'est vraiment le garant de l'information biologique sur le long terme, avec un ensemble de mécanismes de redondance, de réparation pour s'assurer une forme de robustesse dans la transmission de l'information d'une génération à une autre. A contrario, je peux penser aux phéromones. Ces phéromones qui, au contraire, vont avoir une durée de vie très courte, dispersée dans l'environnement, et par lesquelles on va avoir l'idée de transporter une information localement, courte durée, d'avoir une action, mais de pas nécessairement avoir été enregistrée, cataloguée, archivée. On a son action, on disparaît. Un autre exemple, c'est notre œil, ou l'œil de beaucoup d'autres organismes du vivant, qui, contrairement à nos caméras, ne va pas enregistrer pixel par pixel l'intégralité du champ visuel, mais se concentrer sur les éléments importants. Qu'est-ce qui a changé? On va regarder la variation, on va regarder le mouvement, et par cela, on va prélever l'information importante, mais en diminuant considérablement le poids de la donnée qui est utilisée. Donc c'est par ce changement de regard qu'on peut transformer la manière dont on gère, nous aussi, l'information pour avoir la juste donnée sans le poids de l'activité numérique qui peut être associée. Excusez-moi.
Alors, le biomimétisme, aujourd'hui, ça repose sur ces deux démarches. Il y a l'exemple de la forêt, où je pars plutôt d'un exemple du vivant, un modèle biologique, un écosystème, et je vois tous les enseignements dont il peut irriguer, tous les métiers, tous les champs d'application, toutes les déclinaisons possibles à partir de cette donnée biologique et de l'exploration du vivant. À l'inverse, on peut partir de la contrainte technique de cet exemple de la gestion de la donnée et regarder où est-ce que se pose le vivant, la même contrainte, le même enjeu, et chercher à l'attaquer plutôt par cette approche, la problématique, la contrainte et la manière dont le vivant est capable d'y répondre. Donc on va vraiment regarder le vivant par cet angle technique et de problématique fonctionnelle. Le biomimétisme, ça repose aussi sur des individus. À l'origine, on avait quelques pionniers très singuliers, des personnes qui étaient vraiment capables d'incarner le multidisciplinaire, l'interface, le croisement des disciplines scientifiques, artistiques et autres, techniques. Aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire, c'est de miser plutôt sur le collectif, la diversité, et de voir les complémentarités. Et donc, on va faire travailler ensemble des biologistes, des urbanistes, des ingénieurs, des concepteurs, des designers, et voir ce que ce mélange de champs disciplinaires peut produire, mais en misant plus sur le collectif plutôt que sur l'individu et l'anecdote. En particulier en France, on a une grande chance, c'est qu'on héberge 10% de la biodiversité mondiale. C'est notamment grâce à nos territoires d'outre-mer, à notre espace maritime. Mais cet incroyable patrimoine, il est incarné également par le Muséum d'Histoire Naturelle. Et on y trouve quelques 70 millions de spécimens disponibles à l'exploration. Ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est de regarder toutes ces données biologiques par cet angle du biomimétisme et de la fonctionnalité, afin d'en extraire encore plus d'enseignements. Pour conclure, je voudrais reprendre les mots d'un ancien Premier ministre qui nous disait que le vivant peut autant être vu comme un baromètre, nous informant un peu sur la santé de nos écosystèmes, sur l'ampleur des impacts qu'on en a. Mais le vivant, c'est aussi une boussole, celle qui nous indique dans quelle direction se trouve ce fameux développement durable. Et le vivant doit donc être vu comme notre référence de développement. C'est à la fois notre feuille de route et notre mode d'emploi pour construire un avenir plus serein. Je vous remercie. Merci.